Instruis-moi, enseigne-moi. C'est une prière que le Seigneur agrée. C'est une prière chantée. Chacun d'entre nous, nous avons dit au Seigneur, viens, parle-nous. Et c'est véritablement ce que je souhaite pour moi aussi, à l'écoute de la parole de Dieu. Et dans ce chapitre 11, et les versets qui vous ont été lus ce matin, c'est vrai qu'il y a, pour moi, pour nous, en tant que chrétiens, un puissant encouragement que j'aimerais vraiment partager avec vous. Tout d'abord, ce texte nous parle d'un désir de Dieu le Père, de ce que la bonne nouvelle de l'Évangile soit comprise par tout le monde. Je te loue que ce que, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Les sages, les intelligents, bien sûr aussi qu'ils peuvent y avoir accès. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'être sage et intelligent, suivant ce monde, pour pouvoir avoir accès aux vérités profondes de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est grand. Pas besoin d'être riche, pas besoin, on dit en France, d'avoir bac plus 1, 2, 3 ou je sais pas combien. Dieu n'est pas contre. Mais parfois, notre intelligence, ce que nous avons reçu de notre éducation, embarrasse notre esprit plutôt que de ne favorise la compréhension de la parole de Dieu. Un enfant, il n'a pas encore passé par la moulinette de l'éducation scolaire et de l'éducation tout court. Non pas qu'elle soit en soi mauvaise, je crois que parents, éducateurs, instituteurs, professeurs font le mieux, mais d'une sagesse humaine qui parfois est en opposition avec la simplicité de cœur d'un enfant qui, si je prends un exemple pour les fans d'ordinateur, le disque est encore vierge. Il n'est pas embarrassé où on doit faire d'abord un delete, n'est-ce pas, on efface tout, pour imprimer les vérités de Dieu. Je te loue, Père, de ce que tu as voulu les choses ainsi. Dieu merci. L'Évangile s'adresse à chacun. Et pour ceux qui veulent l'accepter dans la simplicité, sans être embarrassés de tellement et tellement de choses qui nous sont si précieuses que l'on n'arrive plus à croire simplement à l'Évangile de notre Dieu tel qu'il est. Alors ce matin, j'aimerais m'arrêter plus spécialement sur deux versets. Oh, je suis sûr, beaucoup parmi nous pourraient les réciter par cœur. Rien de nouveau. Et pourtant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors écoutez, soyons clairs. Si vous n'avez pas besoin de repos, vous perdez votre temps ce matin. Il vaut mieux peut-être que plus tôt que prévu, vous puissiez rentrer à la maison et vous occuper d'autre chose. Pourtant, je crois que notre Père connaît la situation autant des non-croyants qui ont besoin de repos, autant que nous, chrétiens, qui n'a pas, dans ce monde, besoin de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cependant, il faut continuer dans le texte. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. et vous trouverez le repos. Je veux bien vous le donner, ce repos. Cependant, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention ce matin, il y a deux conditions pour trouver le repos. Et nous, parfois, nous demandons à Dieu, mais c'est vrai, accorde-moi ta paix. Ah, il veut nous la donner. Mais accorde-moi ton repos, c'est tellement difficile en ce moment pour moi. Seigneur, j'aspire à ce repos. Et nous oublions, peut-être, ces deux conditions. Et je pense d'ailleurs que ces deux conditions, si le Seigneur les donne dans un certain ordre, c'est qu'il y a une raison pour cela. Il dit, prenez mon joug sur vous, première chose. Et deuxième chose, recevez mes instructions. Et tout cela, il ajoute parce que moi, je suis doux, humble de cœur. Non, je ne suis pas un tyran. Non, je ne suis pas un marchand d'esclaves. Ce que je cherche, c'est que vraiment vous puissiez vivre le mieux possible la vie d'aujourd'hui pour toi, pour mon frère, ma sœur. Je suis doux. Est-ce que vous me connaissez comme ça? Comme quelqu'un de doux et humble ou quelqu'un d'exigeant qui veut que... Et puis c'est pénible la vie chrétienne. Oh là là. C'est dur la vie chrétienne. Ai-je bien fait, dans le fond, de venir au Seigneur? Avant, d'ailleurs, j'avais moins de problèmes avant. Si, parce que quand il fallait que je prenne une décision, je n'avais pas besoin de me préoccuper de Dieu. Je prenais. Maintenant, il faut que je me préoccupe. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est quand même plus compliqué, non? Et nous comprenons mal ce que Dieu veut et qui il est. Je suis doux et humble de cœur. Ma volonté, elle est dans ce livre, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout est révélé là-dedans. Et à son écoute, dans une proximité, dans la fréquentation de ce Dieu, je vais de plus en plus le découvrir tel qu'il veut être pour moi, doux et humble, cherchant à ce que je vive cette vie dans le repos. C'est grand, ça. C'est grand. Voilà l'objectif de Dieu pour chacun, chacune. Vivre le repos. Mais vivre dans le repos, si le Seigneur le veut, c'est parce qu'il sait que c'est le mieux pour moi. Vivre dans la paix, dans mon intérieur, pour mon physique aussi. Parce que mon état intérieur rejaillit sur mon physique, n'est-ce pas? Les médecins le savent bien. C'est ce qu'ambitionne Dieu. Seulement pour moi? Non. Pas que pour moi. Parce que si, peuple de Dieu, nous vivons vraiment le repos, alors vous savez ce qui va se passer. C'est qu'on va interpeller les personnes autour de nous. En disant, mais attends, lui, il a les mêmes problèmes que moi, il a les mêmes difficultés, mais comment il fait pour vivre dans le repos? Comment c'est possible ça? Sûrement qu'il a quelque chose de plus que moi. Et puis s'il a quelque chose de plus de moi, de mieux que moi, alors je vais interpeller le monde autour de moi. Et le monde ne se posera pas la question de savoir... Quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien? À quoi bon devenir chrétien? Ils ont des problèmes comme nous, ils cherchent à les résoudre, ça n'a pas l'air d'aller fort, pour le repos pour eux, ils sont tout autant dans les problèmes que nous, sans... Qu'est-ce que c'est leur Dieu? Et pourtant, de vivre le repos de Dieu, c'est une grande interpellation que Dieu souhaite que son peuple soit pour les personnes environnantes. Dans l'Ancien Testament, déjà, peuple de Dieu, aurait dû être interpellateur pour les nations environnantes. Je lis Deutéronome 4, 5 à 8. Voici, je vous ai enseigné des lois, peuple d'Israël, et des ordonnances, comme l'Éternel, et c'est Moïse qui parle, hein, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de qui je suis au travers de vous et qui diront « Ah, halte, ceux-ci, ils sont vraiment différents. » Et parce qu'ils sont différents, ils vont être interpellés du Dieu qui, pour le peuple, fait la différence. C'est l'Ancien Testament ? Le Nouveau Testament ne nous dirait rien de semblable, peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, moi et vous, peuple de Dieu, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés pour entrer dans le repos et pour être témoins du Dieu que nous avons, celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Avant tout, je dois être, entrant dans ce que Dieu veut, instrument privilégié pour faire connaître au monde le grand Dieu que j'ai rencontré. Et puis, revenons au texte de Matthieu, entrer dans le repos. Le monde en a bien besoin de ce repos. En tant que chrétiens, nous avons besoin de ce repos. Nous, vous, bousculés dans la vie professionnelle, familiale, même parfois aussi dans la vie d'église, entrer dans le repos. Alors, reprenons le texte. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Mais qu'est-ce qu'un joug, d'abord? Oh, pour moi, fils d'agriculteur, ayant vécu bien des années, voilà, mon enfance, dans une ferme, j'ai vu passer des bœufs devant chez nous, avec, sur le cou, un joug. Le joug, un élément d'attelage en bois pour réunir deux animaux de trait, reposant sur le front, la nuque ou le garrot des animaux. Le joug est surtout utilisé pour les bœufs et les buffles. Telle est la définition de mon dictionnaire. Et la Bible me dit, et Jésus me dit, pour ceux qui, dans ce pays de Judée, de Galilée, de Samarie, où le Seigneur se promenait, ceci c'était une image sans doute familière. Prenez mon joug sur vous. Un joug. Mais qu'est-ce que c'est ce joug? Qu'est-ce que le Seigneur veut entendre? C'est une question importante à laquelle il nous faut répondre avec sérieux et attention pour pouvoir passer au deuxième point. Le joug. Une pièce de bois. Tiens, cela me rappelle une autre. Une pièce de bois sous laquelle deux animaux, deux bœufs, sont placés l'un à côté de l'autre. Une pièce de bois qui va unir ces deux animaux dans une même destinée. Oh, une destinée. C'est vrai qu'ils n'ont pas choisi. C'est le maître qui, derrière, va choisir là où ils iront, ce qu'ils feront, les charges qu'ils devront tirer, les temps de repos. Tout cela, c'est plus eux qui maîtrisent, c'est le maître qui décide. Une pièce de bois qui peut être vue comme me privant de liberté, au profit d'une occupation souhaitée par quelqu'un d'autre, par la personne qui dirige l'attelage. Oh, une pièce de bois qui ne me permet pas de choisir toujours les chemins par lesquels je devrais passer. Une pièce de bois, pour les animaux, ce n'est pas un choix. Le maître dit, c'est comme ça, je vous ai pour cela, et voilà. Vous la voyez apparaître, cette pièce de bois, pour nous, en tant que chrétiens, où Dieu dit, je suis avec toi tous les jours. Je crois que cette pièce de bois, c'est celle où chacun d'entre nous, Dieu nous demande, jour après jour, de vivre avec cette croix, qui est non seulement la croix de Christ pour moi, me donnant le salut pour l'éternité, mais c'est la croix de Christ qui me permet de vivre un salut journalier pour vivre dans le repos. Hors de ça, pas de salut non plus dans le repos de Dieu. Savez-vous que sur cette croix, le Seigneur est mort. Oui, ça vous le savez. Vous savez que quelqu'un d'autre est mort aussi sur cette croix? Moi. Et merci de cette grande vérité. Le moteur de ce qui fait que ma vie se construit parfois autrement de ce que Dieu veut. Ce que je fais, ce que je commets en dehors de ce que Dieu veut, les péchés. C'est vrai que Dieu est mort pour cela. Plus, il est mort pour ce qui est le moteur, le moi. Est-ce que je suis en train de dire une nouveauté? Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié. Merci Seigneur. Libération. Prenez mon joug sur vous. Croyez cela. Vivez de cela. Galates 2:20. Car j'ai été crucifié avec Christ. Je vous l'ai dit. J'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est vrai que ce joug représente pour moi, d'un côté, il y a Jésus-Christ. D'un autre côté, il y a moi, et derrière moi, il y a Dieu le Père. Est-ce que le Christ venant sur la terre n'a pas dit « Mon seul but, c'est de faire la volonté de mon Père » ? Oui, il l'a dit. Ça veut dire que lui-même, sur cette terre, était soumis à son Père. Et le but pour moi, c'est d'être soumis pleinement au Dieu qu'il est et d'accepter de vivre avec Jésus-Christ sur le chemin qu'il veut pour moi. Mais c'est glorieux, vivre avec Jésus-Christ. Mais c'est son désir. Mais attention, hein. C'est Dieu le Père qui choisit par où je passe. Et parfois, il y a des choses qui sont difficiles dans ma vie. Est-ce que Dieu, au travers et avec Jésus-Christ, n'est pas présent? Mais bien sûr que oui. Est-ce que sa présence change quelque chose? Oui. Je vous livrerai un témoignage d'une personne de l'église du Locle. Jean-Jacques Jacou, certains peut-être l'ont eu connu. Cher Jean-Jacques, à un moment donné, les médecins lui ont dit, « Ouf, monsieur Jacou, vos reins, ils valent plus rien. » Alors, il n'y a plus qu'une solution pour vous, c'est l'idialyse. Alors, pour vous qui connaissez ce que sont les dialyses, eh bien, il devait, deux fois par semaine, aller à l'hôpital à Chaux-de-Fonds, et puis vivre sa demi-journée là-bas, avec les préparatifs, la sortie, la fatigue. C'était deux jours par semaine qu'il devait passer à l'hôpital. Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi ces dialyses? Moi, j'aurais voulu vivre autrement. Alors, il a posé la question au Seigneur, et puis, un beau jour, il m'a appelé. Il m'a dit, Maurice, l'onction d'huile, ça existe? J'ai dit, oui, ça existe. Est-ce que je peux avoir l'onction d'huile? Moi, j'aimerais savoir où j'en suis. On a pratiqué l'onction d'huile et il n'a pas été guéri. Physiquement, mais intérieurement, vous savez ce qui s'est passé? Il a dit, maintenant j'ai compris. Dieu permet de me faire passer par ce chemin pour que, dans mes dialyses, je sois témoin qu'avec Jésus-Christ, c'est différent que ceux et celles qui sont à côté de moi et qui vivent sans Jésus-Christ. Et il a dit, Seigneur, je choisis d'être sous ce joug-là pour témoigner de qui tu es. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est que des personnes ont dit, mais monsieur Jacou, pourquoi quand vous venez là à l'hôpital, vous ne plaignez pas des infirmières, de ceci, de cela, des traitements et de tout? Et alors il a pu dire, mais écoutez, quel est le problème? Pour moi, j'ai Dieu avec moi, et je vous promets que ça change quelque chose. Et son témoignage auprès des infirmières, auprès des dialysés, auprès de ceux qui faisaient le transport, a été remarquable. Et plusieurs personnes se sont interpellées comment il était possible de vivre les dialyses si différemment qu'eux. Jean-Jacques, merci d'avoir été le témoin, d'avoir pu vivre ça avec toi, vivre le repos de Dieu, même dans les choses difficiles. Oui, c'est possible. Tout à fait. Mais il fallait que Jean-Jacques accepte, voilà ces mots, d'avoir été choisi par Dieu pour pouvoir témoigner de qui était Dieu dans ses difficultés. Et ça, ça parle au monde. Ça parle. Alors si je peux accepter cela dans ma vie, non pas que Dieu se réjouisse, comprenez, hein, d'un certain côté, à nous faire passer au travers de difficultés, puis que voilà, c'est... Non. Mais Dieu a besoin de notre service, là où il nous place, avec lui à côté de nous. Alors, fréquentons le Seigneur. Fréquentons-le. Comprenons qu'il est doux et humble de cœur, mais qu'il a besoin de nous pour cette grande tâche de faire reconnaître autour de nous qu'il est vivant, qu'il est le grand Dieu, et que ça sert à rien d'aller puiser et chercher, je ne sais pas où, un sens à notre vie et une façon de vivre. Ensuite, on peut passer seulement, après cela, on peut passer à recevoir mes instructions. Mais si je ne veux pas un Dieu qui dirige ma vie, c'est pas la peine de recevoir des instructions, n'est-ce pas? Parce que je les recevrai pas. J'aurai toujours des si, des mais, et puis toute une tellement de choses dans ma tête qui viendront là pour dire oui, bon d'accord, peut-être lui, peut-être moi, peut-être autrement, peut-être mais ça va pas pour moi. Et tant que nous n'avons pas capitulé devant Dieu, reconnaître que la croix de Christ est aussi pour moi, accepter sa volonté et non plus la mienne, je perds mon temps. Et je serai, malheureusement, je le crois, si vous permettez, je ne sais pas si vous le permettez, mais un triste chrétien qui ne fera envie à personne, qui fera peut-être même sourire les autres autour de nous, et ils auront, je m'excuse, mais bien raison, parce qu'ils ne verront pas la différence. Recevoir Dieu comme maître, c'est important. Alors après, les 11, eh bien, ils ont reçu les instructions du Seigneur, parce que d'abord, ils avaient capitulé. C'était plus eux qui dirigeaient, c'était Jésus-Christ qui les menait où il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Et ils recevaient les instructions du Seigneur, et ils les ont reçues à ses pieds. Maintenant, je redis, Dieu est doux et humble de cœur. Ne croyez pas que le Dieu, mais vous le connaissez, n'est-ce pas, Jésus-Christ? Vous connaissez Dieu le Père, qui va faire exprès de vous emmener dans tous les traquenards possibles et invraisemblables? Non, pas du tout. Et merci pour toutes les années et tout ce que Dieu a permis dans ma vie, d'années de joie, de bonheur, de reconnaissance de tout ce que Dieu a fait, mais aussi, et pour chacun d'entre vous c'est la même chose, de choses que vous n'aviez pas prévues du tout, et qui arrivent, poum, dans notre vie, comme ça, en pleine figure. Mais avec Jésus-Christ, il y a possibilité de le vivre autrement. Mes instructions, il faut que je me hâte. Les instructions de Jésus, quelles sont-elles? Alors, nous n'avons bien sûr pas le temps de voir toutes les instructions auxquelles Dieu le Père nous invite à suivre ses instructions, mais j'aimerais ce matin, rapidement, prendre quelques-unes de ces instructions qui vont dans le sens de la vie d'Église, de nos relations les uns avec les autres. Je le fais parce que je crois que c'est important de savoir quelles sont les instructions que Dieu nous communique pour pouvoir vivre notre vie sociale, la vie entre nous, frères et sœurs. Et puis la vie aussi, et là, permettez-moi de le dire, en tant que faisant partie de ce comité, Action Biblique Suisse, aussi entre églises. Comment vivre entre églises? Comment vivre entre nous? Est-ce que, s'il te plaît, Pierre-Alain, tu peux mettre mes lignes par ligne? Alors, ce sont des textes, là encore, hein. Je n'ai rien de nouveau à vous communiquer, sinon ce que dit la parole de Dieu. Voilà ses instructions. Il y a deux possibilités de vivre nos relations. Soit se jugeant les uns les autres, Romains 14, 13, ou soyons pleins d'affection les uns pour les autres. C'est aussi un test, hein, pour moi, pour nous tous. Et il fait bon revenir aux instructions du Seigneur. Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je juge mon frère, ma sœur, dans ce qu'il vit? En pensant qu'il n'y a que comme ça qu'il faut vivre, pas autrement, n'est-ce pas? Ou bien, je ne vais pas faire cela, et je vais être plein d'affection pour mon frère, ma sœur, qui se trouve dans sa vie avec le Seigneur, peut-être en tant qu'enfant qui vient de découvrir certaines choses, en tant qu'adolescent, en tant que personne mûre, mais il vit les choses aimées du Seigneur, dans sa compréhension, il avance. pourquoi le juger? Soyons pleins d'affection les uns pour les autres dans nos relations les uns avec les autres. Et ce n'est pas possible si je n'abandonne pas à la croix mes petites prétentions qui fait voir que l'autre, il devrait quand même se comporter comme moi, parce que c'est moi qui ai raison, bien sûr. Sans ça, je ne vivrais pas comme je vis, quoi. Mais, voilà, il y en a que d'autres. Dites, vous avez déjà fait attention à un certain texte de l'Évangile aussi, qui nous parle de Jean-Baptiste et qui nous parle de Jésus-Christ. Tous remplis du Saint-Esprit. Et dans un texte aussi, que nous relèvera ici l'évangile de Matthieu, où il nous a dit, ah ben tiens, vous êtes quand même de drôles de gens. Jean-Baptiste est venu, il a vécu comme un ascète, il se réjouissait pas, lui. Et puis vous avez dit, non, c'est pas une façon de vivre en étant rempli de l'Esprit Saint. C'est pas possible, ça. C'est pas comme ça que je vois la vie chrétienne, moi. Puis au même moment, sur cette même terre de Galilée le Judée, vous avez Jésus-Christ qui vit. Et puis qu'est-ce qu'il vit, lui? On dit, non, mais c'est pas possible qu'il soit rempli de l'Esprit Saint, lui. Oui, c'est un mangeur, un buveur, il est avec les prostituées, il fait la foire. Vous voyez ça? Au même moment, deux expressions différentes de la vie du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, il n'y en a pas un plus grand, ni de femme. Le Saint-Esprit en lui. Une façon de faire, Jésus-Christ, une autre façon de faire. Je vous laisse le choix de qui vous voulez choisir. Hein. Mais si on avait été sur terre à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Moi, je suis pour Jésus-Christ, et Jean-Baptiste, c'est pas ça. Ah non, moi, je tiens pour Jean-Baptiste, et Jésus-Christ, je sais pas d'où il vient, lui. Un peu d'humilité nous ferait grand bien. Alors, soyons pleins d'affection les uns pour les autres, même si on pense différemment. Deuxièmement, se mordant, se dévorant les uns les autres, plutôt que de vous aimer les uns les autres. Où je me situe? Que voit le monde de nos relations? Ou bien on est comme dans les sociétés de foot, de basket, ici vous en savez quelque chose, avec Charles John, et voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'Église est dans cette... De quel côté on se trouve? C'est simple, les instructions du Seigneur. Les enfants le comprennent. Ensuite, se portant en vie les uns aux autres, ou bien nous désirons être serviteurs les uns les autres. Quand c'est qu'on s'est rendu des services les uns aux autres dans l'Église? Ou bien, on se rend plus de services dans le club alpin, ou bien, je sais pas où. Seigneur, donne-nous d'être cela. Le monde va voir la différence. Ils vont dire, mais ça, ils ont un grand Dieu pour vivre ça. C'est pas possible. Ou bien se mentant les uns aux autres, faisant croire que tout va bien, vous savez. Mais en fait, ça va pas. Et puis, on a des problèmes, mais on fait semblant parce qu'on porte un masque, tout va bien. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui peut m'aider. Tandis que si je suis plutôt dans la vérité, ben c'est vrai que parfois, il faudra se supporter. Et l'Évangile me dit que sur cette terre, il y a parfois... C'est bien de se supporter. Se parlant mal les uns des autres ou confesser vos péchés les uns aux autres. Nous n'avons pas besoin, en tant que chrétiens, de confesser quoi que ce soit. Cet verset de l'Évangile, je crois qu'il faut le biffer de nos Bibles, le mettre à côté, parce que... Et pourtant, demander pardon à quelqu'un, confesser que, là, j'ai agi autrement que ce qu'il faudrait. Mais ça, c'est glorieux, c'est formidable. Moi, je connais j'en connais plusieurs d'ailleurs, des serviteurs de Dieu, pasteurs, anciens, qui derrière la chair ont demandé pardon à toute l'Église. À toute l'Église. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a une ratée. Mais bien sûr. Eh bien, je peux vous dire que cet ancien, ce pasteur, il a été rudement apprécié de toute l'Église. Se plaignant les uns des autres, oh là là, le téléphone arabe... Ou plus exactement, le téléphone évangélique, il est encore mieux que le téléphone arabe. Alors que le Seigneur, il me dit, plutôt que d'accrocher le téléphone, puis d'aller raconter à la copain, à la copine ce qui va pas, puis toutes les histoires, prie pour lui. Puis tu verras qu'après, tu lâcheras la corneille de téléphone, parce que prier pour quelqu'un, tu pourras plus se plaindre de lui. Et le résultat, qu'en est-il? Eh bien, de ces deux possibilités, la Bible me le dit, hein. Ou bien, ce sont des œuvres de la chair destructrices, ou bien, le résultat, c'est les fruits de l'esprit, ce sera la construction et le monde autour de nous. Parce qu'on pratiquera les instructions de Dieu, se dira, ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont bien. Oh, pas parfait, mes amis, c'est pas ça. Nous tendons tous vers quelque chose. Alors, vivre dans le repos, oui, par le fait de pouvoir soumettre ma volonté à la sienne, prendre au sérieux ses instructions, savoir que dans cette vie de chaque jour, le Seigneur est avec moi. Savoir que Dieu le Père jette sur moi un regard d'amour, humble, doux, et pouvoir atteindre la grande et glorieuse mission qui est celle d'être représentatif de Christ sur cette terre, Église de Dieu. Je termine par ce verset de Jean 13, 17 que je nous laisse, parce que moi aussi, n'est-ce pas? J'ai besoin de revenir à cela. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de bien les avoir comprises dans votre tête. Ça, c'est parfois notre évangile, mais c'est pas ce que dit le Seigneur. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Voyez qu'il souhaite notre bonheur, notre repos, et d'être heureux à condition de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.